Bonjour, deuxième journée dans les Landes, un département qui joue la carte de l'insertion professionnelle et qui avance un programme, je cite, d'accompagnement personnalisé pour plus d'efficacité, selon le dossier que le magazine départemental consacre à cette priorité qu'est la lutte contre les précarités. Dans cette bataille, les premières victimes du marché du travail sont les jeunes. Or, ces jeunes sont souvent conduits vers un emploi grâce à des contrats aidés. Vous voyez où je veux en venir. 60% des 2300 contrats signés dans les Landes ont été signés par des jeunes. Des élus s'inquiètent à nouveau de la diminution de ces contrats et on les comprend. Le département a signé aussi en parallèle en 2015 une convention avec Pôle emploi afin de suivre chaque personne dans ses démarches de recherche de travail. Cet accompagnement dit personnalisé a pour effet que plus de la moitié des bénéficiaires ont obtenu soit un CDD, un CDI, soit une formation qualifiante. Au sommaire du jour, le nouveau concept très sérieux d'agriculture poétique avec Clément Bayet dans sa ferme Bacotte à Saint-Sevé et Gaëlle Vinko, fondatrice de l'écolieu de Galinette à Talé.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Clément Bayet, bonjour.
Bonjour.
Clément, depuis 2008, vous tentez de reprendre une propriété familiale et vous êtes passé à l'acte en 2014.
Exactement. Alors plus précisément, en 2010, j'ai commencé avec un statut un peu particulier qui nous permet d'être double actif, etc., etc. Et depuis 2014, je suis installé à titre principal sur l'exploitation.
Ouais. Alors je vois, elle s'appelle la ferme Bacotte, chevreau pyrénéen, volaille, porc gascon. Et il y a un sous-titre, alors vous êtes à Saint-Sevé, et le sous-titre c'est l'agriculture raisonnable pour une consommation raisonnée. Mais c'est pas de l'agriculture raisonnée.
Absolument pas. Alors en fait, l'idée, la démarche globale était vraiment de se sortir un peu de tout ce qui existe déjà en termes d'incitation qualitative ou comme ça, et on a essayé de raisonner à l'échelle de l'exploitation.
Oui.
C'est-à-dire éviter un maximum de pouvoir être parasité par quelques travers que ce soit dans les réseaux déjà existants.
Mmh. Alors en 2014 justement, donc ça c'est la date officielle du dépôt d'un label que vous avez créé, qui nous plaît évidemment énormément. C'est le label AP, Agriculture Poétique.
Exactement. Donc au départ, c'était extrêmement humoristique parce que vous imaginez bien, dans la production locale, si on ne produit pas du canard à grande échelle et du maïs à grande échelle, on est un petit peu inilluminé. Donc l'idée est née de créer l'agriculture poétique, dans un premier temps un peu en défi gascon aux voisins et toute autre personne que ça faisait rire.
Mmh.
Et puis finalement, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux parce que ben, c'est devenu un gage de notre travail et comment on réfléchit tous les jours notre production et notre élevage. Quoi.
Et pourquoi on riait de vous ? Il y a une agriculture conventionnelle qui ironise sur les nouveaux exploitants et producteurs que vous êtes ?
Ben, si vous voulez, c'est toujours un petit peu délicat de faire quelque chose qui est en marge, qui est autonome, qui est en vente directe, etc. Voilà, je pense qu'on révolutionne rien, c'est absolument pas l'idée. On essaie juste de faire passer un message différent. Et en effet, nos modèles d'agriculture régionaux, pour le coup, sont extrêmement figés et fondés depuis longtemps.
Ouais. Et figés, fondés sur le maïs et le canard.
Au moins pour les Landes, c'est quelque chose qui est assez récurrent, oui.
Pour la belle histoire du montage que vous avez fait, lorsque vous avez décidé de reprendre l'exploitation de vos grands-parents, vous avez été rejoint par Marie, qui vient de Bourgogne. Marie, qui s'est lancée dans la fromagerie avec le lait de chèvre des Pyrénées. Et puis vous avez surtout consacré des journées entières à préparer, à débroussailler, à défricher, alors que vous aviez déjà un emploi ailleurs.
Ben évidemment, ça n'a pas été au départ vraiment une vocation de tout autofinancer. Ça s'est fait plus parce que absolument personne ne nous a fait confiance et n'a voulu nous prêter le moindre euro.
Oui.
Heureusement qu'on a plein de gens bienveillants autour de nous qui sont venus à grands coups de tronçonneuses, de bonne volonté et de bons coups à boire et de bons repas, nous aider dans cette aventure. Quoi. Ouais.
Avec un petit supplément d'une campagne de financement solidaire.
Exactement, donc on a dû faire ça pour monter notre fromagerie, puisque ouais. À ce moment-là, on employait un local qui était une salle d'abattage pour la volaille. Donc dès qu'on a pu, bien entendu, ben, on a monté ce local et il a fallu qu'on fasse un petit financement participatif qui a très très bien marché, une aventure riche de rencontres.
Oui. Et puis alors une dernière chose Clément, comme vous avez déposé le label Agriculture Poétique, est-ce qu'il est partagé par d'autres fermes maintenant ?
Alors ça c'est le plus intéressant, on est en train de préparer l'entrée dans notre petit label d'une dizaine de producteurs.
Ah bien.
Il y a longtemps déjà qu'on nous tanne, qu'il y a plein de gens qui veulent participer, le problème c'est qu'on cherchait un encadrement qui n'est pas légal, on a envie que ça reste un label de confiance et que ça soit pas une charge de contrôle supplémentaire, on en a déjà assez dans l'agriculture. Il nous fallait trouver une tangente en fait pour qu'on puisse quand même le contrôler et le maîtriser. Parce que dans ce réseau, il n'y aura pas que des gens qu'on connaît, au moins au départ. Donc, ça y est, nous avons enfin trouvé notre solution. Les infos vont être bientôt disponibles sur notre site internet. Et bien sûr, tous les gens qui ont envie de partager ça avec nous peuvent nous contacter et nous les recevrons avec le plus grand plaisir.
Le site internet, c'est agriculture-poétique.com. Il y a la page Facebook aussi pour la fromagerie Bacotte à Saint-Sevé. Merci beaucoup, Clément.
De rien, merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
D'abord, je rectifie mon espagnol tout à l'heure avec Bruno Duvic. Les vacances en espagnol, ça dit vacaciones. Vacaciones. Si, c'est pas vacancia, ça va pas. Le premier drive fermier apparaissait en France en 2012. Depuis, des groupements de producteurs qui transforment et vendent en commun leurs produits ne cessent de se créer dans toutes les régions de France. Plus d'intermédiaires, une juste rémunération, un esprit de partage et non de concurrence et une relation directe aux consommateurs. Le tout premier drive du département des Landes vient d'ouvrir, enfin il y a quelques mois, à Isos, non loin de Dax, au profit du pays d'Aqua, soutenu par la Chambre d'agriculture. C'est l'association Terroir et Tourisme qui est à l'origine du projet, avec une quinzaine de producteurs adhérents et avec le réseau Bienvenue à la Ferme. Ce sont maintenant 17 producteurs qui approvisionnent et animent le drive landais. Le fonctionnement reprend les grands principes du réseau, à savoir vous passez les commandes. Alors là, c'est jusqu'au mardi 12h, vous venez les retirer le jeudi après-midi à Isos. Vu la propagation du dispositif, il y a une rubrique Où nous trouver qui vous guide vers le drive le plus proche de chez vous sur le site général drive-fermier.fr. J'ai un petit moment pour vous dire aussi en version éducation artistique et culturelle, il y a une mention spéciale à attribuer à l'APALA, Association pour l'art lyrique en Aquitaine, qui gère à Souston l'Opéra des Landes. Chaque année, cette association organise un festival d'art lyrique, mais veut propager aussi l'art lyrique vers des publics dit éloigné, alors éloigné culturellement ou géographiquement. On intervient dans des EHPAD, on va vers le jeune public aussi. 4000 personnes ont pu assister d'ailleurs l'été dernier à l'une des représentations, des 5 représentations de la Traviata. Allez vous renseigner, hein, ils font de belles propositions, opéradeslandes.com. Gaëlle Vinco, bonjour.
Bonjour.
Gaëlle, fondatrice de l'écolieu de Galinette, quel beau nom à Talais. Dans les Landes, Galinette, parce qu'on vous appelle la Galinette, c'est sympa ça. C'est quoi un écolieu selon ce que vous avez mis en place ?
Alors un écolieu, c'est avant tout, nous concernant un lieu de vie où on est quatre, donc mon compagnon, sa fille et mon père, oui. Après. Et en fait, on a plusieurs pôles d'activité. Donc on a une ferme vivrière où on consomme les produits que nous fabriquons. Donc du pain, du fromage, du miel, des confitures, enfin plein de choses liées à la terre, donc de l'agriculture, du maraîchage en permaculture. Voilà, on a aussi une association qui propose des stages et des ateliers autour de la transmission des savoirs. Donc en ce moment, au niveau des formations, on a des formations pour apprendre à faire du pain paysan au levain, de la vannerie, pour apprendre à faire des beaux paniers en osier. On a également des petits stages ponctuels de savonnerie et puis de construction de poêles de masse, rocket stove, c'est un poêle autofabriqué en argile et en briques réfractaires. Donc tout ça vraiment lié au monde de l'écologie et du faire soi-même. Quoi.
Ça a été un tournant dans votre vie quand vous avez décidé avec votre famille de créer votre maison écologique, de la construire et de développer des activités annexes ?
Alors complètement, nous on était des vrais citadins, on habitait Bordeaux en ville. Après on est venu dans les Landes parce que moi j'avais acheté un gros commerce et mon compagnon était aussi à son compte. Et puis un jour, petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain, on en a eu marre de nos vies stressantes et puis on trouvait vraiment plus vraiment de sens en fait à ce que l'on faisait. Donc on a décidé un petit peu de tout laisser tomber pour habiter à la campagne. Bon, jusque là il y a rien de très original. Et puis de construire nos maisons. Et puis petit à petit on a eu envie d'être autosuffisant. Alors en nourriture, bon c'est pas encore le cas, mais et en électricité et en eau, c'était important d'être plus dépendant d'un système qui finalement nous rendait esclaves. Et pendant la tempête de 2009, on habitait à l'époque en location une grande maison. Et on s'est retrouvés sans eau et sans électricité pendant un mois, puisqu'on était vraiment isolés. Et c'est vrai que ça nous a fait un déclic aussi. Si demain il arrive quelque chose, on avait envie de pas être justement autant dépendant de toute cette technologie et de tout ce à quoi on était avant, quoi.
Ouais, mais ce qui aurait pu être une utopie se réalise, se concrétise et se pérennise. Ça fait 9 ans que vous vivez là, et ça va aujourd'hui.
Ah, ça va très bien.
Financièrement.
Alors financièrement, alors déjà quand on paye pas d'électricité, pas de loyer, déjà on réduit quand même beaucoup les frais fixes. Ensuite, on produit quand même pas mal de choses de notre alimentation. Et puis la ferme vivrière fonctionne plutôt pas mal. Donc tous les excédents sont vendus à une clientèle locale ou par le biais d'une AMAP. Et du coup, on arrive à avoir un petit revenu qui n'est pas formidable, très honnêtement. Mais comme on a peu finalement de besoins financiers, tout se passe très bien et on est même plutôt content.
Et même, vous distribuez de l'argent collecté dans les ateliers à des associations ?
Oui, complètement en fait. Alors l'association génère pas des milliers d'euros, hein, mais le peu que l'on gagne en fait dans ces ateliers, ces petites formations, peut être donné à d'autres associations qui en ont besoin. Donc ça, c'est une belle manière de voir l'économie, moi je trouve.
Et vous pratiquez le woofing ?
Oui, on fait le woofing depuis 2011. C'est une très très belle aventure et de travail et de vie. On a rencontré des personnes merveilleuses, magnifiques. Et c'est vraiment quelque chose à partager et à vivre. Honnêtement, je le conseille à chaque personne hésitante. Faites du woofing et accueillez des woofers chez vous.
Oui. Donc, on peut participer à des activités en échange du gîte et participer avec d'autres personnes au travail de la terre, à échanger des compétences, à apprendre à vivre, à soigner les animaux, à gérer un rucher si on veut, ou à fabriquer des savons, et à découvrir la permaculture ou l'autoconstruction, parce que tout est possible. Et ce que je remarque quand même, c'est que c'est plus une mode, c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui quittent un mode de vie étouffant et contraignant en ville pour s'installer comme vous le faites. Est-ce que l'écolieu risque de croître et de prendre une autre dimension?
Alors oui, quand nous on a commencé cette expérience de vie à 9 ans, très honnêtement on est passé pour du fou. C'était pas normal que des jeunes chefs d'entreprise lâchaient tout pour monter ce genre de structure, on allait forcément au mur. Et puis en fait maintenant voilà, partout des jeunes et des moins jeunes, hein, vous avez même des retraités, enfin, il y a énormément d'habitats aussi collectifs qui se créent un peu partout, avec toujours un désir de sortir un petit peu d'un système dont on est esclave. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est vraiment avoir envie de fabriquer, de construire. Voilà, on a perdu énormément de compétences avec la technologie, et là ça permet un petit peu d'apprivoiser un petit peu des savoirs qu'on a perdus, oui.
Vous allez trouver à notre page émission les liens avec le site de l'écolieu de Galinette, et également la page Facebook écolieu de Galinette et l'adresse électronique si vous voulez entrer en correspondance avec Gaël pour comprendre la démarche, si vous voulez participer aussi, et peut-être faire l'équivalent ailleurs. Là, ça se situe à Talley dans les Landes. Merci Gaël.
Merci à vous.
Et je rappelle, le mois prochain, c'est-à-dire dans peu de temps, la semaine prochaine, nous serons dans la Nièvre, la Côte d'Or, puis la Haute-Saône, puis l'Aveyron début décembre, le Tarn et le Tarn-et-Garonne fin décembre dans la Sarthe. Pour l'instant, dans les Landes, à Mugron, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.